moi je suis en train de me chimer au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mépris vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Kati qui vous propose Parole aux auditeurs. En visite en RDC du 5 au 7 mars, le premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international, David Gibson, s'est réjoui de l'état de l'économie congolaise, saluant notamment sa croissance. Mais il a estimé que cette croissance économique ne profitait pas à toute la population congolaise. Et pour améliorer cette situation, certains observateurs estiment qu'il faut lutter prioritairement et efficacement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Comment réagissez-vous face à ces propositions de 081-890-1315? C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Dieudonné Nyangata, Julie Pesa sur la réalisation et Jérôme Ndiembo est à la coordination. Ce magazine vous est présenté par Piero Elamegi sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Radio Kati fête son 13e anniversaire avec les étudiants de l'ISIPAMUSI à Kinshasa. Au menu, une émission spéciale sur le bon usage des médias sociaux, sur les débouchés après des études en informatique et bien d'autres sujets encore. Au Kati Service, un rendez-vous exceptionnel à ne pas rater ce vendredi 13 mars 2015 de 9h à 11h hors de Kinshasa. Au Kati Service, à votre service.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Comment lier l'état de l'économie congolaise à l'amélioration des conditions de vie de la population? Comment y arriver? Plusieurs personnes estiment que cette croissance économique ne touche pas la majorité de la population congolaise, mais une des voies pour y arriver, selon certains observateurs, c'est de lutter efficacement et d'une manière prioritaire contre la corruption et les détournements des deniers publics pour arriver à palper l'impact de cette croissance. Voilà la question au centre de notre échange de ces jours. Comment arriver efficacement à lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et ainsi accompagner cette croissance économique. Nous avons associé à cet échange M. Rachidi Akida, président de la Ligue contre la corruption et la fraude. M. Akida, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer les cas de la lutte contre la corruption, la fraude, les détournements des deniers publics, et revenons d'abord sur la préoccupation, c'est la croissance économique qui atteint aujourd'hui près de 9,5%. Comment on peut alors lier cette croissance économique de la RDC et l'amélioration du bien-être de la population?
Merci pour la question. C'est pour moi un honneur d'être invité par la Radio Kati et j'ai saisi de cette opportunité pour saluer tous les auditeurs de la Radio Kati. Mm-hmm. Dans PDG, je voudrais résumer d'abord la réflexion de M. David Lipton en trois étapes. La première, il voudrait qu'on puisse constituer des actions permettant une augmentation de la production interne, la production intérieur brut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, la stabilité du cadre macroéconomique en stabilisant le taux de change, en luttant contre l'inflation. Et aussi, pour stigmatiser ces points, remettre, c'est-à-dire maintenir cette inflation au niveau zéro, c'est-à-dire à un niveau plus bas. C'est-à-dire quoi? Stabiliser les prix sur le marché. Et en dernier lieu, je voudrais qu'on puisse redistribuer à la population tous les bénéfices pouvant résulter des premiers points que j'ai cités ici. Mm-hmm. Donc pour moi, je voudrais vous dire ici, on ne peut pas faire tout ça sans qu'on puisse lutter contre la corruption et lutter contre les détournements. Parce que ça, ce sont les points les plus essentiels et les plus importants. Mm-hmm. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la corruption a un effet inhibant sur la croissance économique d'un pays.
au lieu que la croissance puisse exploser, mais on voit que cette croissance est en train d'être amnésiée. Vous voyez? Donc, pour moi, cette analyse que M. David a faite, elle est réelle et correcte. Parce qu'ici, chez nous, nous voyons que la corruption gangrène tout le secteur économique. Et elle est à ciel ouvert, monsieur. Je ne peux pas avoir honte de vous le dire. Partout, on voit la corruption. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises ici, on voit la corruption. Et surtout, là, on doit dire, c'est dans les entreprises qui génèrent les recettes de l'État. Ici, on voit notamment la douane, les services des DGI un peu partout là. La corruption est là. Or, ce sont des services qui génèrent les recettes de l'État où on devrait, n'est-ce pas, mettre un contrôle sérieux pour que ces entreprises puissent maximiser effectivement les recettes de l'État pouvant permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de répondre efficacement aux besoins de la population.
Et quand voilà, vous parlez de la corruption qui gangrène, elle se résume en quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain en évoquant par exemple les régies financières, la douane? Concrètement, elle consiste en quoi?
C'est-à-dire quand un client vient au niveau de la douane avec une marchandise qui devrait payer par exemple 30 000 dollars, mais ce client ne peut pas payer 30 000 dollars, il s'arrange avec un douanier. Et il fait 5 000 dollars qui entrent dans les caisses de l'État et les douaniers empochent 10 000 dollars ou 5 000 dollars. Donc il y a un manque à gagner important de plus ou moins 20 000 dollars qu'un seul client pouvait faire entrer dans une caisse de l'État. Et ça, ce sont des cas qui sont légion partout. Et vous voyez les maisons qui sont en train de pousser comme des champignons un peu partout. Ce sont ces gens-là qui sont en train de tuer systématiquement les recettes de l'État. Au lieu que cela entre dans les caisses de l'État, mais ça entre dans les poches des individus. Et aujourd'hui, l'État est devenu vraiment, on dirait, que quelqu'un qui n'a pas de moyens pouvant lui permettre, n'est-ce pas, de faire face à tous les besoins dont la population aujourd'hui est en train de souffrir. C'est-à-dire payer les construire des bonnes écoles, payer les médicaments dans les hôpitaux, payer les salaires décents aux fonctionnaires publics, mais aujourd'hui les fonctionnaires sont devenus des clochards. Parce qu'un fonctionnaire qui vous touche 4 000 dollars, qui vous touche 40 000 francs congolais, ou 50 000 francs congolais, comment va-t-il faire face à toutes ces dépenses-là? Voilà, monsieur.
Alors, mais il y a quand même des efforts qui ont été fournis dans la lutte contre la corruption. On sait qu'on a mis en place l'observatoire du code d'éthique et de l'odontologie professionnelle, je crois bien. Voilà, il y a l'OCEP. Il y a eu quand même des séminaires qui ont été tenus de sensibilisation aujourd'hui. Et qu'est-ce qui représente aujourd'hui ces efforts qui ont été fournis dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la situation dans notre pays?
C'est très malheureux d'entendre des discours creux de la part du gouvernement. D'ailleurs, ça, c'est un souci. Le cadet des soucis du premier ministre de Matata, dans tous ses discours, il n'a jamais prononcé un seul moment de lutter contre la corruption. Nous suivons. Lui, son problème, c'est le cadre macroéconomique, le cadre de stabilité macroéconomique. C'est un économiste, on connaît bien, il se soucie beaucoup de l'économie, mais il n'a jamais prononcé discours sur la lutte contre la corruption. Sinon, on n'allait pas constater ce phénomène qui gangrène l'économie nationale congolaise.
Mais alors,
ce sont des discours creux. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais sanctionné quelqu'un qui a commis un acte de corruption. Parce que la corruption, c'est un acte répréhensible par la loi. Mais on peut me désigner, me citer, ne plus que deux personnes qui ont été arrêtées, soit à la prison de Makala, pour avoir corrompu ou pour avoir été cité dans une affaire de corruption. Je n'en connais pas. Et pourtant, nous savons que toutes les entreprises aujourd'hui sont devenues obsolètes. Pourquoi? Parce que les gestionnaires sont en train de piller ces entreprises-là. Les fonctionnaires et les agents des entreprises ne sont pas payés. Je vous citerai le cas de la SNCC. Pour payer un salaire, il faut attendre 4 mois. La Zécanine, la même chose. Tous les sites miniers sont vendus aux Libanais, aux Indiens, et les agents de Zécamine aujourd'hui sont devenus des clochards aussi. 3 mois à la Zécamine, 4 mois à la FSC pour avoir un salaire, c'est que moi une seule entreprise qui est prospère aujourd'hui. Et on sait que les erreurs, les dirigeants de ces entreprises, qui est-ce qu'on a arrêté quelqu'un? Non. C'est pour dire que le gouvernement, dans sa politique, la corruption, c'est le moins de son souci.
Voilà, on va se mettre ensemble avec vous et les auditeurs pour voir comment alors développer des mécanismes plus efficaces pour permettre à ce que l'État rentre dans ses droits en ce qui concerne les deniers publics, par exemple, l'amélioration de la situation dans le régime financier au niveau de la douane, comment tout cela peut profiter au trésor public et pouvoir accompagner cette croissance économique et ainsi améliorer les conditions de vie de la population. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, Pierre Lamège.
Alors, on a suivi notre invité. Beaucoup de gens évoquent chaque fois la corruption, estimant que les efforts sur terrain ne sont pas assez accrus pour arriver à lutter contre ces phénomènes, pour que la situation économique du pays prospère encore davantage et qu'elle profite à toute la population. Pour vous, d'une manière plus efficace, comment on peut y arriver, Ismaël?
Bon, on peut y arriver juste si on tient compte. D'abord, je remercie l'État et la différentes sensibilisations dont on a fait. Dans des différents rapports, par exemple, l'ICE, nous avons compris combien de rangs la RDC a pu récupérer. Mais tout cela donne une idée certaine dont je vais intervenir sur 3 points. Retourner au fait sur le manque à gagner que la population congolaise ne reçoit rien. Le temps je suis dit au Max Igalo quand tu l'as intervenu, je vais l'écrivain américain, vraiment, ça m'a donné une idée quelconque. Pourquoi on détourne la richesse et tout ce qui arrive à la RDC? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme de suivi. Et le contrôle ne s'effectue pas comme il faut. Plus je peux surveiller mon frère. Celui-ci, c'est un membre de ma propre famille. Cela m'a empêché de. La chance, c'est que quand tu es tombé dans une déficience, on peut le poursuivre en vue de l'arrêter. Remarquez par exemple quand un ministre a eu une émotion, par exemple, et qu'il peut se représenter à l'Assemblée pourvu qu'il puisse aussi passer à l'examen, c'est correctement de ce qui s'était passé pour ceux qui étaient initiés comme émotion. C'est ça le premier point. Le deuxième point, la population même puis continue par exemple dans des taxes, dans des différentes contributions. Ils n'ont rien, par exemple, si vous remarquez dans les infrastructures, les routes, des installations sanitaires, par exemple. C'est tout à fait difficile. Pourquoi? Parce que le revenu, ce qui vient, n'entre pas dans la caisse de l'État plutôt que dans des poches désignées qui ne tiennent pas compte de l'amour de notre pays. Maintenant, pour arriver à tout ceci, ce que je peux proposer, c'est celui-ci. On avait encore le système de OADA. Mais où est-ce que nous en sommes? C'est parce que, par exemple, si on paye cet argent et que ça n'arrive pas au nez de ces genres de personnes, ça ne peut jamais arriver à ce genre de difficultés. Remarquez que quand on demande, par exemple, cette année, nous avons un bon rapport, mais le budget de notre pays, c'est un peu médiocre là. Nous avons le problème des élections. Où est-ce que nous avons l'argent pour organiser?
Oui, mais alors, s'il vous plaît, Ismaël, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Hein, et ça, c'est le constat. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas de mécanisme efficace, vous l'avez dit. Mais vous avez évoqué le clientélisme qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'on a des acquaintances, que ce soit des relations familiales, en cas de bévue. Et vous estimez aussi qu'il y a le manque de l'amour des patries, de la patrie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas s'engager à lutter contre la corruption. Au-delà des dénoncés qui sont posés, alors, quelle autre chose on peut faire aujourd'hui pour dissuader tous ceux-là qui détournent les deniers publics, comme vous avez évoqué tout à l'heure, Ismaël?
Ça va, c'est gentil. Si nous avons la justice dans notre pays, tout pourrait aller mieux. Et quelque chose dont je devais encore ajouter, c'est un guichet unique. Ce guichet unique pourrait nous permettre d'avoir tellement une note et passer à ce guichet et financer votre argent, cela ne pourrait jamais avoir de problème. J'insiste souvent sur la justice. Si la justice fonctionne à lui en RDC, je sais que tout ce que nous avons comme la défaillance et la déficit ne peut jamais nous arriver. Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Vous estimez qu'au-delà de tout, il faut que la justice puisse fonctionner correctement. Les systèmes de guichet unique, on sait que ça a été installé, que ce soit au niveau des ports, que ce soit dernièrement aussi avec les guichets uniques pour la création des entreprises. Vous estimez que tout cela, avec des notes de perception en conformité, on peut arriver à lutter contre la corruption et la fraude. Merci Ismaël Papi, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour aussi à l'invité.
Papi Sepiro. Alors, le souci aujourd'hui, c'est d'arriver à transformer les slogans. Notre invité a dit, il y a des discours clairs autour de la lutte contre la corruption, mais comment matérialiser cela? Comment arriver vraiment à transformer l'intention dans les actions concrètes de lutte contre la corruption? Papi, vous êtes avec nous? Voilà, désolé, on a perdu Papi. Alors, nous revenons à vous, Rachidi Akida. Vous avez suivi, et notre ami Ismaël, il a évoqué quelque chose de très, très important, c'est le fonctionnement de la justice dans l'accompagnement de la lutte contre la corruption. Mais il a évoqué aussi d'autres mesures qui peuvent être prises, comme des guichets uniques, tout ça, si ça peut résoudre le problème. Mais par rapport au fonctionnement de la justice en ce qui concerne la lutte contre la corruption, quel peut être votre constat aujourd'hui?
Mais c'est justement le problème le plus épiné aujourd'hui en République démocratique du Congo, la justice. Vous savez que tous les pays qui se disent aujourd'hui développés, ils ont mis la justice au centre de tout. Mais ici chez nous, je vous dis sans avoir froid aux yeux que la justice n'existe. Elle n'existe pas, la justice. Elle est à trois vitesses, à deux vitesses.
Voilà, là on a des petits soucis de ligne, on vient de perdre aussi notre invité Rachidi Akida. La réalisation pour avoir comment récupérer Rachidi Akida avec qui on était tout à l'heure, on évoquait le problème du fonctionnement de la justice. 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission. Mais beaucoup d'auditeurs ont déposé aussi les messages sur la page Facebook des Paroles aux Élus tout à l'heure. On va les exploiter. J'ai dit encore que nous évoquons la lutte efficace contre la corruption pour accompagner la croissance économique et voir comment cela peut avoir de l'impact sur l'amélioration du quotidien de la population. Vous avez besoin d'intervenir, appelez-nous à ce numéro 081-890-7315.
Simila sera l'invité de l'émission Découverte ce vendredi 13 mars à partir de 14h, heure de Kinshasa. Son actualité et ses projets humanitaires seront au cœur de l'entretien qu'il accorde à Radio Capi avant son concert de ce samedi 14 mars à 19h à l'Institut français à de la journée. Simila sur Radio Capi, un rendez-vous à ne pas manquer ce vendredi 13 mars à 14h dans l'émission Découverte.
Parole aux auditeurs.
Nous avons des messages qui ont été déposés par les internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Igwe Mawantela de Kinshasa dit ceci, l'économie de la RDC a subi une certaine évolution, l'inflation est maîtrisée, les taux d'échange est aussi un peu stable, mais ça n'a pas vraiment l'impact du social congolais, les salaires de base n'ont pas suivi la croissance économique, les taux de chômage restent élevés, la promotion de PME est à la légère hausse, plusieurs commerces s'exercent dans les non-formels car ils échappent aux taxes et impôts. Alors, c'est comment on peut capitaliser les taxes et l'impôt pour l'intérêt de la caisse publique. Ça peut résoudre le problème des conditions de vie de la population. Bantila Bo-Jackson, c'est un processus, il encourage et c'est qui, d'un moment aussi critique. Et puis, la RDC va sûrement finir à atteindre le développement. Patti Ebondo de Lubumbashi, qui est étudiant en première licence économie monétaire, la croissance économique est en RDC réelle, mais il est à souligner que c'est une croissance basée sur le secteur minier, qui est un secteur des expatriés dont 60% des parts doivent rentrer dans leur pays d'origine et 40% restent pour la Banque centrale au profit de toujours de ces mêmes expatriés. Le code minier prévoit que 2% des chiffres d'affaires de chaque mining doivent être affectés dans le social, l'environnement où l'entreprise est installée, ce qui n'est pas le cas chez nous par manque de suivi. C'est pourquoi on ne sent pas la croissance au niveau du social des Congolais. Je préfère appeler cela une croissance exclusive et non inclusive, parce que cela ne touche pas la classe moyenne. Alors, Robert, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour. Robert, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, Robert, comment arriver aujourd'hui à lutter d'une manière prioritaire et efficace contre la corruption pour permettre à ce que la croissance économique évoquée arrive à résoudre vraiment le problème du quotidien de la population congolaise?
Bon, moi, je vous salue tout d'abord, pardon. Je salue tout votre invité et toutes les personnes qui sont avec nous pour cet échange. Je m'en vais seulement vous proposer s'il y a des causes importantes sur lesquelles il faut s'attaquer avant d'entrevoir d'autres possibilités. En réalité, c'est quoi dans notre pays? On a un budget qui est voté et qui n'est jamais appliqué. Ensuite, il y a des salaires qui ne sont jamais bien payés. Et la conséquence, j'avais déjà parlé dans cette tribune d'un problème de motivation. La motivation, c'est la base même qui peut permettre à tout individu de se sentir capable de fournir des efforts. J'avais donné l'équation managériale de la motivation, où il faut mettre l'accent sur une plus forte motivation. Mm-hmm. Si on donne des salaires convenables, qu'on respecte, je crois que le problème ne se posera plus jamais. Parce que quand vous allez à Matadi, 90% des hôtels, c'est toute une propriété des agents de douane, des contributions. C'est terrible. Pourquoi cela? C'est parce que ces agents-là ne sont jamais bien payés. Alors, s'ils étaient bien payés, ils protégeraient l'État. Ils les payent bien. Ensuite, il y a ce que moi j'appelle toujours la gangrène, même la police, quand ils surveillent la circulation, ils s'adonnent facilement à demander de l'argent aux passants. Ce qui n'est pas intéressant, si la police est bien payée, elle va bien servir, elle va bien protéger, elle va faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Voilà le truc. C'est pour ça qu'il faut dire, il faut s'attaquer aux causes. Mm-hmm. Ce sont les causes qu'il faut corriger. Parce que le budget est là. Il y a à peine une dizaine de pourcentages de personnes qui s'en approprient. C'est le gouvernement, le parlement et les consorts. C'est tout. Mais le reste, s'il faut aussi, s'il pouvait faire ce que nous estimons faire comme en Europe, hein, les écarts des salaires sont de 1 à 5, par exemple. Un Congolais qui touche 1000 dollars, quelle tentation aurait-il pour aller chercher à se faire corrompre, hein? Il lutterait constamment pour que ces 1000 dollars lui viennent. Comme ça, il est sûr de remplir son pouvoir d'achat. Donc, moi, j'estime que c'est cru peut-être ce que j'ai dit, mais c'est une réalité. Ça, c'est si nous prenons les Européens aujourd'hui, un officier européen, un policier européen, pour le corrompre, il faut avoir du courage. C'est pas possible, il ne va jamais accepter ça. Il faut attaquer les causes, pour la conclusion pour moi, attaquer les causes, payer suffisamment les gens, appliquer le budget. Quand on l'arrête, quand on le vote au Parlement, il faut qu'on l'applique. Mm-hmm. Et on n'a jamais appliqué, nous sommes en mois d'avril bientôt. On n'a jamais appliqué le budget. Au mois de mai, juin, juillet, c'est fini, on commence à ne plus en parler. Donc c'est dommage.
Merci beaucoup, Robert. Vous estimez que le grand problème aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions salariales hein, des fonctionnaires agents de l'État et arriver aussi à exécuter correctement le budget, parce que des fois, on a toujours dénoncé que notre budget est consommé en grande partie par trois institutions, la présidence de la République, le gouvernement et les parlements, mais vous estimez qu'il doit être exécuté d'une manière équitable pour tout le monde. Si on arrive aujourd'hui à payer correctement les fonctionnaires, que ce soit ceux qui travaillent dans au niveau de la douane, des régies financières, ils pourront bien militer pour que l'argent rentre dans les caisses de l'État, parce que cet argent va leur revenir à travers les salaires, et c'est ça vraiment la voie par laquelle aujourd'hui on peut arriver à combattre la fraude et la corruption en RDC. Merci beaucoup, Robert. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous avons dans la même ville Félicien qui est avec nous. Bonjour, Félicien. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Voilà, on vous écoute, Félicien. Vous avez suivi notre ami Robert qui pense que le plus grand problème aujourd'hui, c'est les salaires. Pensez-vous vraiment que le fait d'améliorer les salaires des fonctionnaires peut à lui seul arriver vraiment à lutter contre la fraude et la corruption?
Non, il y a beaucoup d'éléments, monsieur Pierrot, mais je voudrais d'abord dire que des voix se sont levées dans cette ville pour dire que dans ce pays, je veux dire, pour dire que cette croissance était fictive et on ne sentait pas la croissance et on entendait seulement à la radio, à la télévision, de la part du gouvernement et c'est du gouvernement, ceux qui nous gèrent n'ont jamais accepté cela. Et mais aujourd'hui, comme le premier vice-président de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international qui vient de dire, et maintenant, et on accepte. Et c'est ce qui n'est pas normal. Moi, je pense que si un gouvernement veut vraiment résoudre les problèmes, il veut vraiment réussir sa mission de gérer la République dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt général. Et le premier combat doit être le combat de la corruption. Il doit combattre la corruption. Or, ici, chez nous, nous constatons que l'exemple vient d'en haut. C'est même d'abord qu'ils sont dans cette corruption et qu'ils sont partout dans l'exploitation des minerais, dans les pillages des minerais, dans les pillages des ressources du pays. Ils sont en tête. Et vous voyez bien que, au niveau du Parlement, le Parlement qui est censé vraiment être l'émanation du peuple, on refuse même d'interpeller un ministre pour malversation ou un responsable public. Et on dit non, il est de notre, il est de notre camp. C'est-à-dire qu'en réalité, chez nous, nous sommes loin de sortir du gouffre parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas encore pris conscience qui sont là pour l'intérêt général, qui sont là pour tout le monde, parce que toute la population ne peut pas être au pouvoir. Le grand nombre se trouve en dehors du pouvoir, et le petit nombre, c'est là qu'ils doivent travailler pour l'intérêt général. Et moi, je pense que le problème des salaires, dont mon prédécesseur a dit, c'est pas seulement l'unique. D'abord, pour arriver au salaire, au bon salaire, il faut qu'il y ait d'abord ces moyens pour les avoir. Il faut qu'il y ait la bonne gestion. Et s'il n'y a pas la bonne gestion, comment on arrivera à avoir de l'argent pour donner de bons salaires? Nous avons un problème de mauvaise gestion de la République. Et il faudra que les gens prennent conscience et qu'ils imitent les pères de l'indépendance qui ont géré sans voler, sans piller, et qui n'ont pas laissé d'immeuble, comme ils sont en train de faire la course à l'enrichissement illicite au nombre des immeubles. Chacun se mesure au nombre des immeubles qu'il construit, chacun qui passe au pouvoir. Et c'est ça le problème de manque de patriotisme dans notre pays. Ça, nous devons le combattre. Il faut que nous puissions apprendre à la jeunesse à ne pas suivre cet exemple-là et que nous devons chercher à rentrer aux sources. Et les sources pour nous, c'est limiter les pères de l'indépendance qui sont partis, qui sont morts, qui n'ont pas laissé ces traces de pillage et de vol comme nous le vivons aujourd'hui.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que la lutte contre la corruption devait être la priorité aujourd'hui pour les gouvernements. C'est ce qui n'est pas le cas pour vous, selon votre constat. Et vous estimez aujourd'hui qu'il va être très difficile si on considère plus l'intérêt politique que l'intérêt de la patrie, si on ne peut pas interpeller un mandataire ou un ministre qui est soupçonné de corruption ou de malversation financière parce qu'il est de sa famille politique, il a un intérêt politique à protéger, ça va être difficile. Et là, vous avez lancé ce message de sensibilisation, d'appel à la conscience pour que les gens puissent avoir comme modèle ceux qui nous ont conduits à l'indépendance, qui sont partis sans pour autant courir à l'enrichissement, à l'élévation des immeubles à travers la ville, Rachidi et Akida, a évoqué cela tout à l'heure, mais on tente de les joindre pour voir comment continuer avec lui cet échange. Il est président de la Ligue pour la lutte contre la corruption et la fraude. Nous avons Kaleba, vous êtes à Goma dans la province du Nord Kivu. Bonjour Kaleba.
Bonjour la radio Cassie, bonjour Théo.
Vous avez suivi, il y a notre ami Armand Kondoli de Kinshasa qui nous a écrit, il a dit ceci sur la page Facebook, il dit « La corruption et les détournements des deniers publics sont deux fléaux qui rongent l'économie congolaise et pour y pallier, la justice doit sévèrement sanctionner les coupables. » Ceci a été aussi évoqué par notre ami Ismaël tout à l'heure, qui est « Il n'y a que la justice qui peut arriver vraiment à aider les pays à lutter efficacement contre la corruption et les détournements des deniers publics. » Et qu'est-ce que vous ajoutez au-delà de ce qui a été dit, Kaleba?
Oui, ben, merci, une fois de plus. Avant tout, je félicite la Radio Capi parce que lorsque vous utilisez vos mots-feux pour mentionner, ça me fait plaisir. Je fais mienne une proposition de ceux qui m'ont précédé, donc de mes prédécesseurs. Je dirais que je dois rebondir sur deux points qui me paraissent très importants, notamment le cas des conditions salariales et le cas de la volonté politique, quoi. S'agissant du premier cas qui consiste à savoir la manière dont les agents de l'État sont payés. Je vais y aller de façon pratique. Prenons le cas d'un magistrat, parce que bon, je suis juriste en formation, je fréquente des maisons carcérales, je connais de la situation de magistrats, j'ai des frères aussi magistrats, je connais un spécial vif. Prenons le cas d'un magistrat à qui on paye $800. Quelqu'un qui traite des dossiers dont les intérêts se tournent autour de millions. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est soupçonné de cette manière-là n'ait pas ce dossier corrompu? Ça ne peut pas passer. Donc, la manière de payer de l'État, de façon conforme, leur donner un salaire de 200. Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est nous, prenez le cas d'un député qui touche $11,000. Parce que peut-être que les gens peuvent se poser souvent la question, comment souvent le Congolais, quand ils interviennent, ils rejouent toujours sur la question des salaires des députés. Parce que c'est là que nous referons. Un député qui touche $11,000, un magistrat qui touche une formation de $800,000, voyez le décalage ici là. Un magistrat qui a des enfants qui doivent étudier au collège, sa femme doit bien vivre, il doit rouler, mais vous voulez qu'il touche le rame, qu'il touche les portes de ses corps. Alors, s'il est tenté, on ne sait pas le bien de la démocratie. Donc, la manière de payer les gens, ça peut être un élément fondamental de décourager la pratique de la corruption que nous définissons tous. Je reviens sur l'aspect de la volonté politique. Puis, vous souviendrez que dans ce pays, il y a eu l'opération bancarisation. D'ailleurs, ça, vous le savez bien. À l'issue de cette opération, on a découvert des bêtises graves, des noms fictifs déjà. De liste, par exemple, de militaires, on nous dit qu'ils sont même de 150 000, par exemple. Mais quand on vérifie, ils sont 50. Mais de 2011, c'est un nom fictif. Moi, je personnellement, j'attendais que le ministre Malta Poli puisse maintenant engager des poursuites judiciaires contre ces gens-là qui, après avoir mis en place notre acte de bancarisation, on s'est rendu compte qu'il y avait des fictifs et qu'il y avait un groupe de gens qui, depuis notre argent, qui construisait avec le monument, les maisons, des hôtels. C'est même le cas chez nous, la gomme, à partir d'où je vais. Il y a des maisons qui naissent comme des champignons. On peut se demander, ces gens, qu'est-ce qu'ils font en termes d'activité. Donc, ils ont tenu à avoir fait le commerce. Non, si vous regardez très bien, ces gens sont en connivence avec ceux qui sont aux affaires. Donc, si la volonté politique n'est pas là, je vous dis, la corruption ne prendra jamais fait. Comme solution, moi, j'ai toujours proposé, une des cas d'ailleurs, à la radio Capi, qu'il y ait un comité chargé d'arrêter le cas d'arrêter sans cause. Mais c'est vrai qu'il y a des gens ici, d'ailleurs, ceux qui m'ont précédé sont revenus là beaucoup, sont revenus là dessus, il y a des gens ici, là-dedans, vous voyez que le cas, il travaille à la deuxième. Son salaire ne correspond pas par rapport à son politique quotidien. C'est quelqu'un qui se met qui corrompt. C'est quelqu'un qui pille la régie des pays. C'est quelqu'un qui détourne au vide aussi de tout le monde. Et si vous vérifiez bien, vous allez vous rendre compte que c'est un homme qui remonte les télémètres. Il est en connivence avec ses chefs.
Dans ce tableau, il va être. C'est ça, Kaleba. Vous avez beaucoup insisté, Kaleba, sur les conditions de vie des magistrats aujourd'hui, quand on vous dit que la justice doit travailler, mais elle doit être accompagnée de l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Il y a eu d'ailleurs plusieurs fois, les magistrats sont allés en grève, vous rappelez, on a eu beaucoup d'émissions sur la dernière grève. Quand on estime aujourd'hui, vous avez dit, supposons que c'est lui qui a une fonction politique, revenons par exemple au député qui touche $11,000 selon ce que vous avez dit, et qu'un magistrat ait $800, comment voulez-vous que la personne qui doit traiter un dossier de $5 millions aujourd'hui ne soit pas tentée à prendre la corruption? Et vous avez évoqué la volonté politique en disant qu'avec l'opération des bancarisations des salaires des enseignants, des fonctionnaires de l'État, on a parlé de beaucoup de fictifs, et on a parlé des reliquats. Vous aurez souhaité voir aujourd'hui les gouvernements initier des poursuites judiciaires contre ceux-là qui étaient plonger dans ces pratiques, qu'il soit jugé et que l'information passe auprès de la population. Comme ça, vous serez sûr qu'on est en train de lutter contre la corruption. Nous avons aussi proposé la poursuite des gens en termes d'enrichissement illicite. Quelqu'un comme notre ami de Matadi Labi, qui est beaucoup d'hôtels aujourd'hui à Matadi, appartiennent à ceux qui travaillent dans les services de régie financière. Alors, il faudrait des contrôles pour savoir quel est votre salaire, comment vous vous êtes construit cet immeuble, comme il y a maintenant ce qu'on appelle la Kinshasa des flammes qui naissent partout. Alors, faire des contrôles qu'on soit sûr vraiment que la personne a gagné cet argent d'une manière licite. Alors, Félix, vous allez garder la ligne parce que nous avons accordé la parole à notre invité que nous avons perdu tout à l'heure. Voilà. Ah, nous avons encore des petits soucis des lignes avec notre invité Rachidi Akida. Alors, Félix, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Félix. Alors, comment arriver vraiment à matérialiser la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics?
Oui, pour matérialiser vraiment la lutte contre la corruption dans notre pays, moi, je crois que c'est le conscientisme de ceux qui nous dirigent et en général, nous, le peuple congolais. Si nous sommes vraiment conscientisés sur ce qui concerne la corruption, comprendre qu'est-ce que la corruption et comment ça nuit à la population et à la nation, je crois que le peuple congolais changera vraiment prochainement. Parce que comment pouvez-vous expliquer, messieurs les journalistes, il y a des discours qu'on présente sur la corruption. Mais moi, j'appelle ça des discours qui sont des mascarades. Parce que la réalité sur le terrain, ce n'est pas ce que nous entendons dans nos discours. Comment pouvez-vous prétendre vraiment dire, par exemple, qu'il n'y a pas la corruption ou bien la corruption a été atténuée? Mais lorsque vous voyez, par exemple, des députés qui sont cités à la corruption aujourd'hui dans l'Assemblée provinciale, et c'est là la cause des querelles et des disputes à l'Assemblée provinciale où les gens se blessent, où les gens sont fracturés. Mais après demain, ce député devient un ministre national. On lui donne aussi une grande place dans la nation. Est-ce que vraiment c'est là nous avons la conscience de ce que nous faisons et la conscience de ce que nous allons devenir demain? Lorsque des choses très petites que nous devons résoudre au niveau provincial, mais la même personne devient, on les retrouve à un niveau élevé. Il va diriger des grandes choses pour la nation. Je crois, comme disaient vraiment nos prédécesseurs, le président de Kwame Nkrumah, qui disait que c'est la conscience. Et le peuple congolais peut prendre la conscience de la corruption, connaître les gars de la corruption. Je crois que le peuple congolais dit
ça. On peut résoudre le problème, voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Félix. Vous avez évoqué le cas des consciences, la lutte contre la corruption. C'est une question de prise des consciences. Mais là, vous avez évoqué, par exemple, quelqu'un qui était en province, député provincial ou ministre provincial, ou occupé une fonction en province. Il a eu des problèmes, des conflits, pour avoir été cité dans des cas de malversations financières ou de détournement. Et curieusement, demain, vous le retrouvez à Kinshasa. Il occupe une fonction sur le plan national. Et là, pour vous, ça vous inquiète. Comment, dans ces cas, on peut arriver aujourd'hui à lutter contre la corruption? C'est un problème de prise de conscience de tout le monde aujourd'hui. Joachim, vous êtes à Colésie, gardez la ligne parce que je crois bien que notre invité est avec nous maintenant. La ligne téléphonique s'est améliorée. On va lui accorder la parole. Comment arriver à lutter efficacement contre la corruption et d'une manière aussi prioritaire pour que la croissance économique de la RDC profite à la population? 081-890-5315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences congolaises, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Parole aux auditeurs.
Rachidi Akida, vous êtes avec nous maintenant. On a eu des petits soucis des lignes téléphoniques tout à l'heure. Vous avez été interrompu de notre studio. Je crois maintenant la ligne s'est améliorée. Vous avez peut-être eu l'occasion de suivre la plupart des compatriotes qui se sont exprimés. Ils sont revenus sur les problèmes de la justice, les problèmes de la transparence dans le marché, la transparence dans aujourd'hui, voir les personnes qui s'enrichissent, qui construisent des maisons, poser des questions pour lier les revenus à ce qui se fait aujourd'hui. Et vous aussi, vous étiez en train d'évoquer les cas de la justice et quand nous avons perdu en ligne tout à l'heure. On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je disais que en République démocratique du Congo, la peine est de choses. Il faut qu'on puisse mettre des mécanismes pouvant permettre à ce que la justice soit indépendante. Notre justice n'est pas indépendante. J'insiste là-dessus. Nous n'avons pas une justice qui est impartiale. Aujourd'hui, si vous voulez aller à certains jugements au niveau de la justice, vous prenez tellement de l'argent, vous avez un jugement. Il faut mettre des gens sérieux, des gens qu'il faut au niveau de la justice, qu'on mette la corruption de côté. Mais le gouvernement n'a pas cette volonté politique, comme avait dit un ami là, parce que je disais que pour commencer les choses, il faut qu'il y ait une volonté politique du dirigeant. Or, cette volonté politique n'existe pas. Ce sont ces mêmes dirigeants qui ont un système d'interventionnisme au niveau de la justice, au niveau des entreprises, partout. Ce sont les interventions qui font que les choses ne puissent pas marcher. Ça, c'est une chose. La justice est à deux vitesses, même à trois vitesses. Je disais que les dirigeants des entreprises, les ministres, les conseillers des ministres, qui sont coupables de certaines infractions, ne sont jamais transférés au niveau des juridictions compétentes pour être jugés. Donc, on ne prend pas de mesures drastiques contre toutes ces personnes-là qui sont coupables de certaines infractions. Donc, c'est de la bouillabaisse. La justice n'existe pas. Elle n'existe pas. J'insiste bien là-dessus. Si le gouvernement, notre gouvernement, veut que les choses changent, il faut que la justice soit indépendante de toutes ces interventions des dirigeants. Il y a des gens qui sont arrêtés à gauche, à droite. Mais vous regardez dans les dossiers, il n'y a rien. Mais il suffit seulement d'une volonté de celui qui est au pouvoir, des dirigeants, et on met les gens. Il suffit seulement d'avoir une volonté de celui qui a l'argent, qui décide seulement de faire arrêter X ou Y, on arrête. Et dans ce pays-là, comment voulez-vous que les choses puissent marcher? C'est la condition qui gagnerait de partout, surtout dans cet appareil judiciaire.
Oui,
Parce que si vous voulez aujourd'hui arrêter quelqu'un, donner seulement de l'argent, on va l'arrêter. Et vous demandez pourquoi on l'a arrêté. Le juge ne peut rien vous dire si ce n'est que l'argent qui se dit.
Alors,
voilà, monsieur, si vous voulez effectivement qu'il y ait des choses sérieuses ici chez nous, il faut que cette justice-là soit indépendante.
Voilà, Rachidi Akida, on sait qu'il y a beaucoup de rapports qui vous élaborez sur que ce soit les détournements des deniers publics, que ce soit les fonctionnements au niveau des frontières, des douanes, tout cela. Alors, mais aujourd'hui, y a-t-il un cadre de discussion permanent entre les structures de la société civile que vous êtes dans la lutte contre la corruption et le pouvoir public pour dégager des pistes de solutions efficaces? Parce que en vous écoutant, on dirait qu'il y a un fossé aujourd'hui entre les politiques, les gestionnaires là où ils sont, la société civile qui est engagée dans la lutte contre la corruption là où vous êtes, que, comme s'il n'y a pas de discussions qui se tiennent pour dégager une ligne de conduite aujourd'hui qui peut arriver à mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre la corruption.
Mais les discussions se font. Mais celui qui devrait exécuter ces discussions, ces décisions prises au niveau de certaines réunions, c'est qui? C'est le gouvernant. Mais lorsque le gouvernant n'a pas cette volonté d'exécuter, et c'est lui, le gouvernant, qui est à la base de la corruption, celui qui est à la base des détournements, mais comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose? Nous, société civile, nous confectionnons des rapports que nous envoyons aux dirigeants. Mais ces rapports ne sont pas traités. C'est classé sans suite. Il y a l'Observatoire congolais d'éthique professionnelle qui se trouve au niveau de la fonction publique. Combien de rapports ils ont déjà érigés? Combien de séminaires ils ont déjà tenus? Mais qui suit ça? Au niveau de l'application, j'ai toujours dit, monsieur les journalistes, on peut tenir de beaux discours, on peut tenir des réunions, des rapports faramineux, mais l'applicabilité de tout ça, c'est zéro au niveau du Congo. C'est zéro. Donc c'est pourquoi, moi je vous dis, il y a le fossé, effectivement, le fossé existe. Pourquoi? Parce que celui qui devrait exécuter n'a pas cette volonté. Parce que si vous regardez, quand on a parlé des immeubles,
Si vous regardez tous ces immeubles, ils sont construits par qui? C'est par les dirigeants, qui des ministres, des conseillers, des AGC, hein, des directeurs des entreprises. Ils ont des flats partout. Mais est-ce que vous allez faire arrêter un ministre? Vous allez faire arrêter un DG? Je ne pense pas. Donc, c'est pour vous dire que la volonté politique reste au niveau du gouvernement et c'est le gouvernement lui-même qui entretient cette corruption. Les détournés, c'est toujours lui, les dirigeants qui entretient ça. Et donc, parler de la corruption aujourd'hui pour qu'on puisse lutter, mais on sait de la bouillabaisse.
Alors, pour vous, en vous écoutant, c'est qu'elle veut dire que la situation se présente d'une manière, le tableau est tellement noir qu'on ne peut pas s'en sortir aujourd'hui, qu'on ne peut pas arriver aujourd'hui vraiment à lutter efficacement, à lutter contre la corruption. En vous écoutant, on peut dire que les carottes sont cuites pour la RDC, on ne peut pas s'en sortir.
Mais je vais vous citer d'abord, monsieur le journaliste, pour vous en rendre compte. Le président de la République avait cette volonté de lutter contre la corruption. Il avait sorti le slogan « Les portes de prison sont ouvertes ». Encore un autre slogan, le « Tolérance zéro ». Ça, c'est le chef de l'État. Il avait tenu des séminaires un peu partout. Mais qui devrait exécuter toutes ces théories du président de la République? C'est le gouvernement. On ne peut pas demander au chef de l'État aujourd'hui, après avoir donné de grandes impulsions, que lui-même passe à l'exécution de ça. Moi, je regrette pourquoi? Je regrette parce que tous ces mouboutistes, les anciens mouboutistes, qui sont venus avec leurs mauvaises théories, leur système de piller les entreprises, d'appauvrir la population, tous ces anciens mouboutistes aujourd'hui, on les trouve au gouvernement. Et si la situation s'empire aujourd'hui, monsieur, c'est à cause de la présence de ces anciens mouvementiers qui sont venus avec leurs méthodes, qui vivent dans le silence. Au moment où la population vit dans la misère la plus noire. Donc ces gens-là, leur présence, en tout cas, moi je vous dis que c'est la nuit et le jour. Je ne pense pas que nous puissions aujourd'hui espérer que le Congo va sortir de l'ornière dans laquelle le Congo est plongé. Je suis vraiment sceptique quant à ce mot. Mais on va continuer à entendre les théories du Premier ministre, la croissance macroéconomique, pendant qu'on ne paye pas les dettes intérieures. Tous les Congolais qui ont fourni des matières à gauche à droite ne sont pas payés, mais vous nous parlez de la croissance. La croissance, vous n'augmentez pas les salaires des fonctionnaires, vous n'augmentez pas les salaires des travailleurs dans des entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui sont empêtrées. Nancy Camille, empêtrée, SNCC, empêtrée, Sodimico, empêtrée. Donc, je dirais que toutes les entreprises et la réforme des entreprises commerciales aujourd'hui, les résultats, c'est lequel? C'est zéro. Mais pourquoi on ne tient pas compte de tout ça? Mais on tient des conférences, des discours pour dire que non, là on est arrivé à 9 points, à 2 chiffres, tout ça, sont des slogans, je répète encore, des slogans
vrais.
La population ne trouve pas son compte, monsieur.
On va revenir à vous, Rachidi Akida, on sent que c'est sérieux, hein, on sait que vous dites, on comprend aussi les niveaux d'inquiétude que vous avez quand on s'est mis dans la peau de ceux qui doivent bénéficier de cette croissance et surtout en ce qui concerne les efforts qui doivent être fournis pour accompagner toutes les volontés exprimées par le chef de l'État, vous l'avez dit, il y a même le premier les ministres de la justice du temps du professeur Lozolo Bambi qui avait évoqué la lutte contre la poursuite de Kuluna en cravate, ça a été évoqué, beaucoup de médias en ont parlé, mais vous estimez qu'il n'y a pas une volonté derrière toutes ces initiatives pour arriver vraiment à lutter contre le phénomène, que ce soit dans les entreprises du portefeuille de l'État, que ce soit la fonction publique ou partout ailleurs. Beaucoup des rapports qui sont fournis par la société civile aujourd'hui ne sont pas suivis d'effet parce qu'il y a aussi des difficultés au niveau du fonctionnement de la justice. On vous garde en ligne. On revient à Joachim qui est à Colombie et Moïse ici à Kinshasa. Joachim, vous êtes avec nous. Bonjour.
Allô?
Oui, Joachim, vous êtes avec nous. Bonjour.
Ok, bonjour JR, bonjour à tout le monde qui contribue au débat.
On vous écoute.
Et pour moi, j'ai voulu émettre mon idée, parce que je suis bref. La plupart des gens qui m'ont précédé ont déjà dit beaucoup de choses qui sont importantes. Maintenant, pour moi, j'ai voulu aussi donner mon idée, peut-être qui va aussi contribuer au débat. C'est-à-dire, lutter contre la corruption. Nous devons d'abord changer l'homme, parce que l'homme est au centre de tout développement. Maintenant, si la plupart de ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont été à la Deuxième République, ils sont avec ce poison-là de Motona Motoa Bongisa. Donc je pense que le Congo n'a pas changé, on a changé tellement les noms, mais la mentalité reste à la de la deuxième république de Zaïr.
Mm-hmm.
Donc pour ce faire, donc nous devons changer, l'État doit changer d'abord le personnel qui gère la chose publique et remplacer de nouveau les gens qui ont la conscience, qui peuvent bien travailler, pourvu qu'on puisse arriver à de bons résultats. Mais tant que ces gens sont là, automatiquement, ce sont les maisons que vous voyez qui se construisent comme des champignons, comme l'a dit l'invité. Et c'est le salaire de base de ces gens qui construisent des maisons, c'est de combien? Donc il n'y a pas. C'est incompatible.
Alors, c'est que vous insistez beaucoup sur l'homme, vous avez évoqué le changement, il faut qu'il y ait le changement de la mentalité de l'homme congolais. Alors, vous êtes rappelé de ce slogan de Motona Moto Abondissa, voilà, que chacun fasse ce qu'il peut faire là où il est. Alors, chacun a compris qu'il fallait se servir dans la caisse de l'État pour faire ce qu'on pouvait faire. Ah, le fait que nous portons cet art de la Deuxième République, ça ne peut pas nous aider aujourd'hui à lutter contre la corruption s'il n'y a pas un changement profond de l'homme congolais. Et cela a été évoqué par notre invité quand on parle de Mobutu, c'est-à-dire qu'on fait allusion à tous ceux qui ont géré le pays du temps de la Deuxième République qui a duré 32 ans de règne. Alors, il estime qu'il y avait déjà les systèmes de corruption qui étaient déjà institutionnalisés. Et si les gens n'ont pas changé, c'est qu'on a pu apporter cela dans les institutions actuelles. Ça sera difficile de lutter contre la corruption au-delà même de tout ce qu'on peut avoir comme volonté aujourd'hui. Merci Joachim Dekolesi. Moïse, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Moïse, vous êtes avec nous. Bah, là, on a perdu Moïse qui était avec nous tout à l'heure en ligne de Kinshasa. Il y a John Ojan qui pense, lui, que le problème aujourd'hui de la justice, c'est qu'elle est au service des politiciens. Aussi longtemps qu'on ne peut pas laisser la justice fonctionner d'une manière libre, elle ne pourra jamais aider le pays à pouvoir lutter contre la corruption. Il évoque les cas de l'impunité. Si beaucoup de gens se complaisent à vivre ainsi au niveau des, que ce soit les régies financières ou la douane, c'est parce qu'il y a de l'impunité, c'est que celui qui a détourné hier et aujourd'hui est libre et des fois même promu. Alors comment vous voulez, dans ces conditions, qu'on puisse dissuader les autres personnes à corrompre? C'est John Ojan qui nous a déposé ce message sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous revenons à vous, Rachidi Akida. On comprend que les tableaux, la situation, elle est sérieuse. Il faudrait quand même, comme notre ami Joachim de Kolesi dit, mettre les changements de l'homme au centre de tout ce qui doit se faire, que ce soit l'homme qui travaille dans la justice, que ce soit l'homme qui est en politique, que ce soit l'homme qui est dans la société civile, dans les régies financières. L'homme doit être au centre de toutes les préoccupations de lutte contre la corruption. Rachid Akida.
Il a raison lorsqu'il a cité l'homme, parce que dans toutes les activités, c'est l'homme qui doit être au centre de l'État. Comment l'homme doit être au centre? Mais il faut motiver d'abord cet homme qui doit prendre des décisions judiciaires. Aujourd'hui, nous disons que la justice n'est pas impartiale. Pourquoi? Parce que la corruption gangrène là-dedans. La justice est instrumentalisée. Mais s'il y avait la volonté politique des dirigeants, il devrait d'abord donner le salaire aux juges, aux magistrats. Donc, mettre l'homme à la place qu'il faut, lui donner un salaire qui lui permet de vivre décemment, faire scolariser ses enfants. À ce moment-là, ce monsieur-là ne peut pas être tenté à la corruption. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, partout dans les entreprises, si la justice est toujours juste, mais elle devrait quand même sanctionner, arrêter les gens qui commettent des infractions. Mais dès que ceux qui commettent des infractions corrompent, et c'est fini, on les libère. Si vous passez dans des prisons, des différentes prisons, Makala et tout ça, vous allez trouver seulement des enfants qui ont commis des viols, qui ont volé des petites choses à gauche, à droite. Ce sont des enfants qui sont dans les prisons. Mais les coulons en cravate, ils sont où? Ils sont dans leur bureau climatisé. Et tout ça, c'est quoi? C'est la justice qui n'est pas impartiale.
Voilà.
Donc, l'homme doit être effectivement au centre des
décisions.
Mais il faut motiver cet homme-là. Lui payer, lui donner un salaire qui lui permet de vivre. Et qui doit payer ce salaire? Ce sont les gouvernants. qui prennent des décisions pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais l'homme qui ne sont pas animés à mettre l'homme qui améliorer les conditions de vie de la population.
Voilà, vous permettez-nous rapidement d'écouter Madame Joséphine qui nous appelle des Boston aux États-Unis d'Amérique. En 30 secondes, Madame, parce qu'on doit terminer l'émission, vous avez suivi les uns et les autres. Dites-nous un mot en 30 secondes et on va revenir à Rachidi Akida pour dire merci aux auditeurs. Rapidement, Madame Joséphine.
Bonjour, Radio Capi. Je disais ceci, j'ai déjà dit ce que je vais dire. La fois passée, j'ai dit que si. Le jour où vous allez voir au Congo la prison Makala, là, à côté de la prison Makala, parce que ce n'est pas dans des conditions d'une prison, on va commencer à construire. L'État va commencer à construire une prison bien là. C'est le jour où vous allez dire que le Congo va changer. Ici aux États-Unis, je vais vous donner un exemple plutôt. Ici aux États-Unis, presque dans toutes les villes, presque, j'ai dit, dans toutes les villes, tu vas voir un bâtiment très bien. J'étais même étonné quand je suis arrivé ici. Quand tu demandes, ce bâtiment, c'est quoi? C'est un hôpital? On te dit, non, c'est pas un hôpital.
Voilà. Dommage, Madame Joséphine ne saura pas plus aller plus loin. Quand on verra des prisons entretenues et bien construites, on aura une idée qu'il y aura le changement. Alors, Rachid Yakida, vraiment, on a suivi les uns et les autres. En juste un mot, parce que là, on n'a que 20 secondes pour terminer cette émission. Dites un mot juste, on va se séparer avec les auditeurs sur votre mot-là, Rachid Yakida.
Moi, je voudrais que les gouvernants puissent prendre des mesures courageuses pour améliorer les conditions de vie de la population. S'il y a la croissance, effectivement, macroéconomique, cette croissance doit permettre au gouvernement de redistribuer, n'est-ce pas, les produits de cette croissance, parce qu'il y a une production et toute la population a besoin de bénéficier la production de notre pays. Voilà.
Merci beaucoup, Rachid Yakida. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les présidents de la Ligue de lutte contre la corruption et la fraude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux. Toute l'équipe qui nous aide à produire cette émission, coordonnée par J.R. Lungembo, J.Donné Yangassa, la mise en nom de Julie Faisal à réaliser. Pierrot et la main, je vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.